Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 un avocat, défenseur des libertés publiques, défenseur des droits des migrants qui s'installent en France. Vos questions, amis auditeurs, dans une dizaine de minutes, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile France Inter. François Sureau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à notre micro aujourd'hui et commençons donc par la page d'histoire dont la commémoration a démarré hier et se poursuit aujourd'hui. C'est le 75e anniversaire du débarquement de Normandie, le 6 juin 44. Hier, autour de la reine d'Angleterre et de 300 vétérans étaient présents les anciens alliés Donald Trump, premier ministre canadien et australien, Justin Trudeau, Scott Morrison, Emmanuel Macron, Theresa May et tant d'autres. Quel sentiment, François Sureau, suscite en vous le souvenir de cette opération militaire sans précédent, de ces jeunes gens, parfois très jeunes gens, qui ont débarqué au petit matin sur les plages de Normandie?
D'abord, ça suscite chez moi le sentiment de décrasser, c'est-à-dire de décrasser tout ça de son côté officiel et commémoratif. Et puis peut-être d'essayer, moi je suis ému chaque 6 juin, de rendre ce qu'on appelle le devoir de mémoire sa signification véritable. Parce que le devoir de mémoire, quand on voit la manière dont on nous bassine avec, on a l'impression qu'il est à la mémoire vivante, parce que le devoir conjugal est à l'amour. Et donc, il est assez nécessaire de reprendre la dimension existentielle de ça. Vous parliez des jeunes hommes, de qui ils étaient. Alors c'est ça qui est assez bouleversant, et on devrait s'y arrêter et faire ce qu'Ignace de Loyola appelait des compositions de lieux. Qui étaient-ils? Qu'ont-ils voulu et qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Qui étaient-ils? C'est absolument fascinant. Un mois, deux mois après la bataille de Normandie, il y a une chose qui me bouleverse toujours. Ces drones. Ces drones étaient un capitaine du régiment de marche du Tchad, qui combattait avec Leclerc depuis le début, et c'est lui qui va du Crisse de Saclay jusqu'à la gare d'Orléans, en passant par Malakoff et Montrouge, et il se perd. Vous savez, c'est lui qui avait mis sur le pare-brise de sa Jeep « mort au con », ce que Leclerc lui avait vivement reproché. Et il se perd, et il doit s'arrêter à un carrefour, et il demande son chemin aux gens. Et c'est une image phénoménale, que ce type qui en réalité indiquait la direction morale de ce qu'il fallait faire, mais qui ne savait pas comment faire pour y parvenir, et qui demande son chemin aux gens de Malakoff-Montrouge. Il y a quelques années de ça, j'ai retrouvé quelqu'un dont j'avais toujours entendu parler dans ma famille. Notre maison de famille était occupée par un état-major de la Luftwaffe. Et puis, en août 44, on vient dire à ma grand-mère qu'il y a des Américains dans le petit bois de Gomberville. Alors elle va dans le petit bois de Gomberville, elle trouve des Américains. C'était trois chars. C'était des chars américains. Seulement sur les chars, il y avait la France et puis le drapeau à croix de Lorraine. Et elle se rend compte que ces Américains sont en réalité des Français. Et le Français qui était là était un lieutenant qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Maurice Albert de Montal, et qui avait fait la campagne de Leclerc. Et quelques années après, on l'a retrouvé, enfin je l'ai retrouvé, près de 40 ou 50 ans après, on m'a même demandé de prononcer un discours quand il est mort. Et j'allais le voir dans sa maison, il avait une maison dans le Gers où il n'y avait aucun souvenir militaire, rien. Sauf dans un coin entre la cuisine et l'office, un petit dessin que probablement il avait fait qui représentait la cathédrale de Strasbourg. Uniquement ça. Et face à l'accumulation de paroles, face à l'accumulation de discours, face à l'accumulation... Voilà, c'est à ça que je pense. Et qui ils étaient qui ils étaient? Quand vous allez au musée de la Libération, vous regardez la plaque où il y a les noms, et vous rendez compte que d'abord il y a une chose... On est sûr que ce qu'ils n'étaient pas, c'était la France officielle. Comme le disait Stéphane dans un très beau documentaire, la France officielle, elle était du mauvais côté. L'Académie française, l'administration, l'inspection des finances, le Conseil d'État, les évêques étaient du mauvais côté. Et en fait, c'était essentiellement des jeunes réfractaires appartenant à tous les milieux. Vous avez des Arabes, des Sénégalais, des Juifs polonais, des grands bourgeois de Paris, vous avez absolument tout. Et Jules Roy racontait dans un de ses livres qu'il avait... entendu un témoin dire prononcer il avait entendu le général de Gaulle prononcer ces paroles que j'ai toujours trouvées assez bouleversantes. À la fin, qui avait-il au début? Quelques juifs, quelques aristocrates, tous les pêcheurs de l'île de Sein. Voilà.
Un mot sur la très belle lettre qu'a lue hier Emmanuel Macron, celle signée d'un condamné à mort de 16 ans, celle d'Henri Fertet, ce jeune résistant de 16 ans donc, qui écrivait sa dernière lettre à ses parents avant d'être fusillé. Vous la connaissiez, cette lettre?
Je l'ai découverte, et j'en ai même parlé avec lui avant qu'il la lise, parce qu'on avait été frappé par la même chose. Je l'ai découverte en voyant une exposition que j'engage les auditeurs à aller voir, et qui est l'extraordinaire exposition qui s'appelle Manuscrits de l'extrême, à la très grande bibliothèque, oui,
nationale,
et qui
ouais.
représente, enfin, qui est une exposition de manuscrits de personnes exposées à aux circonstances les plus dramatiques de la vie, la mort d'un enfant, la mort d'un proche, les lettres de Michaud après la mort de sa femme sont bouleversantes, le poème de Chénier et beaucoup de lettres évidemment datant de la période de la guerre et de l'occupation. Et cette lettre de Ferté est absolument étonnante. Et ça amène d'ailleurs à s'interroger sur les raisons du combat de ces gens et de gens si jeunes. Elle est étonnante parce qu'elle révèle une maturité politique incroyable. Ça n'est pas quelqu'un qui fait des roulements de tambour et qui pousse des cris idéologiques. C'est quelqu'un qui dit simplement « je veux que la France soit libre et les Français heureux ». Et cette incroyable maturité politique dans la bouche d'un garçon de 16 ans. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qui était Ferté? Ferté, c'était un FTP de Besançon qui a été fusillé à la prison des Buttes. C'était un FTP, donc plutôt proche du PC que des autres. C'était aussi un croyant assez fervent. Et quand il était emprisonné à la prison des Buttes, on lui tapait dessus évidemment toute la journée. On lui donnait très très peu à manger, on lui donnait des boules de pain. Et il s'est servi d'une de ces boules de pain, et ça a été l'une des dernières choses qu'il ait faites avant son exécution, pour fabriquer une petite statue de la Vierge à l'enfant en mie de pain qu'il a réussi à faire passer à l'extérieur. Et ça aussi, ça me fait rêver comme drone qui perd son chemin, c'est-à-dire que c'est aussi une époque où les choses que nous avons l'habitude, nous qui sommes dans une époque pacifique et facile, de penser contradictoirement, n'étaient pas pensées contradictoirement par des gens qui avaient à supporter ces épreuves considérables.
Si on pense l'époque aujourd'hui, 75 ans après, quand vous regardez l'improbable photo de famille de ces chefs d'État et de gouvernement, c'est plus festin, je ne sais pas si vous avez vu le film, qu'une belle, je vous encourage à le voir, c'est qu'une belle famille unie. Vous avez Trump, l'unilatéraliste, Theresa May qui est en sursis pour 24 heures, vous avez les progressistes Macron et Trudeau, Angela Merkel affaiblie. Est-ce que vous vous dites, heureusement qu'on a le passé, heureusement qu'on a l'histoire à célébrer ensemble parce que l'avenir est autrement plus incertain?
Je me le dis naturellement comme tout le monde, mais ce que je pense c'est que ça ne doit pas être simplement une occasion de célébration du passé pour en quelque sorte se consoler de la médiocrité du présent, mais plutôt de voir ce qui est intéressant dans le passé. Et il y a une caractéristique de, et c'est ce que je disais sur le fait de ne pas nécessairement penser les choses contradictoirement, il y a une caractéristique de la quasi-totalité de ces résistants, c'est qu'ils pensent deux choses en même temps que nous avons tendance à séparer. Par exemple, il y a une chose absolument dominante chez eux qui est le patriotisme. Le patriotisme, ils pensent tous à la patrie. Alors, certains, ils pensent de manière plus ou moins exaltée en fonction des points d'origine où ils se trouvent, d'autres comme Ferté de manière plus tranquille, mais il y a le patriotisme. Et puis à côté du patriotisme, il y a les valeurs françaises, la liberté, les valeurs démocratiques, et ils les pensent ensemble, ils ne les pensent pas séparés, comme de notre temps, où on a très souvent l'impression que faire l'Europe, comme on dit, et promouvoir la liberté en Europe, c'est d'une certaine manière oublier les dimensions du patriotisme national. Ou à l'inverse, si l'on est souverainiste, la seule manière de s'en sortir, c'est d'oublier notre patrimoine commun pour nous rebasculer sur la France seule. Ce qu'il y a de caractéristique dans cette génération, c'est que face à une épreuve énorme, ils ne laissent tomber aucun des deux côtés du fil. Et je pense que ce que nous avons à méditer, si on a à méditer quelque chose, c'est ça.
Voilà. Mais François Sureau, pour prolonger la question de Léa à l'instant, n'est-ce pas aussi une tendance profonde de la politique moderne que de célébrer, de commémorer, d'avoir la religion du passé, de cultiver ces images pieuses, d'avoir la technocratie plus le lyrisme, et au fond aucune capacité à parler au futur et à rassembler autour du futur, mais en revanche, oui, à essayer de réveiller une communauté nationale en célébrant le passé?
C'est ce que vous dites, et pardonnez-moi, une question extrêmement profonde, mais qui est très très difficile à traiter, parce que je suis pas sûr, en réalité, que le devoir de la politique soit de rassembler quoi que ce soit. Certes, si on veut être le Führer, le Duce ou le Conducateur, on rassemble tout le monde. Je pense que le devoir de la politique est un devoir beaucoup plus compliqué et beaucoup plus prosaïque, qui consiste en réalité à faire rentrer l'ensemble des passions politiques dans la boîte institutionnelle au service d'un projet commun qui soit, par exemple, un projet d'alternance classique entre la gauche et la droite dans le cadre d'une démocratie représentative, etc.
Ça marche encore, ça?
C'est-à-dire que ça, j'observe que personne ne sait le faire fonctionner. On parle beaucoup en ce moment de révision constitutionnelle. La seule révision constitutionnelle intelligente serait celle qui, en réalité, viserait à remettre à plat la crise de la démocratie représentative et à se demander comment réorganiser différemment des pouvoirs que nous avons hérités du passé et qui sont en situation de déréliction. Alors, personne ne s'attache à ça, c'est-à-dire que le gouvernement ne s'attache pas à le faire. La classe politique, de manière générale, ne s'attache pas à le faire. Et en revanche, elle fait assez souvent oublier cette carence dans l'exercice de son métier propre par une sorte de lyrisme général autour du thème du rassemblement. Eh bien, ceci me paraît tout aussi dangereux que le reste.
Est-ce que vous croyez à la fin du clivage gauche-droite, François Sureau, ou à la fin des partis qui faisaient ce clivage-là? Je veux dire, avec l'explosion de LR et du Parti Socialiste, est-ce que ce sont les partis qui sont mis en cause ou ce sont leurs idées?
Oh bah, je suis pas fort doué en analyse politique, mais je pense que je ne crois pas du tout à la fin du clivage droite-droite, mais je ne crois pas du tout d'abord parce que je l'éprouve en moi-même, si vous le permettez, parce que je suis à moitié à gauche et à moitié à droite.
Vous êtes en même temps, vous aussi?
Non, précisément. Moi, je suis beaucoup plus schizo que ça. C'est pas en même temps. C'est de temps en temps à droite et de temps en temps à gauche. Et je sais exactement que lorsque c'est l'homme de droite qui parle, il est incompatible avec l'homme de gauche et réciproquement. Donc ça existe. C'est-à-dire, globalement, vous avez quelque chose qui valorise, dans le sens le plus profond et parfois le plus utile de ce terme, la tradition, ce qui nous a été légué, ce à quoi il faut faire attention, ce qui est précieux et ce qui est fragile, et de l'autre côté, quelque chose qui, un autre état d'esprit qui consiste à vouloir en permanence inventer des modes d'être, y compris des modes d'être politiques qui n'ont jamais eu lieu. Et ça, c'est une chose qui ne va pas disparaître. Et ça n'a pas disparu même dans les votes, quand vous les regardez. Ça reste là.
Ah François, bon oui.
Oui, vous avez de la droite, vous avez de la gauche.
Avez La République en marche.
La République en marche, c'est de la droite modérée. Enfin, je veux dire, ça, y a pas de sujet à cet égard. Enfin, à mes yeux, tout du moins.
Mais quand on voit cet immense parti centriste se mettre en place sous cette forme-là, c'est inédit en France. La République en marche, qui agrège les anciens de la droite, de la gauche, certains venus de l'écologie. Est-ce que vous dites, François Sureau, que c'est ça la politique moderne, des agrégations de gens venus d'horizons différents, ou plus simplement, c'est le retour du parti unique?
Non, mais c'est pas moderne. Je veux dire, c'est pas moderne. C'est quelque chose d'absolument courant en France depuis la Révolution française. Il y a un très bon texte de Fabrice Boutillon, l'historien là-dessus, dans le titre un peu étrange, s'appelle Théologie politique du nazisme, mais les premiers chapitres sont extrêmement éclairants. La Révolution française crée véritablement la politique moderne, parce que avant, la question politique ne se posait pas. Le roi est là pour toujours, les lois du royaume sont là pour toujours, et on ne pense pas la vie en termes politiques. La Révolution française crée un avant et un après, une droite et une gauche, et elle divise le pays au moment même où elle affirme cette idée que la souveraineté nationale est le fondement de la construction politique. C'est ça qu'elle fait. Donc la seule question qui se pose depuis la Révolution française, c'est comment faire vivre une souveraineté nationale par hypothèse unique, alors que la Révolution a créé de la division. Vous avez deux manières, vous en avez trois en réalité, c'est pas si compliqué. Vous avez les totalitarismes, de droite comme de gauche, qui au fond pratiquent le rassemblement par les extrêmes, de l'extrême droite et de l'extrême gauche ensemble. Le nazisme est la grande caractéristique de ça, mais la plupart des systèmes fascistes le sont. Vous avez le système anglais, je vais rassembler tout le monde et réconcilier la nation dans l'alternance de la droite et de la gauche. Et puis vous avez la politique centriste qui a été suivie à plusieurs reprises avec le parti radical dominant sous la troisième, avec le consulat par Bonaparte et maintenant avec la tentative qui est en train d'être faite. C'est une tentative qui, en réalité, est extrêmement, à mes yeux, éphémère. C'est-à-dire que, ou bien, ça ne marche que comme ça marchait pendant le consulat. C'est-à-dire, le centre ne peut fonctionner que s'il est radicalement réformateur et de manière surprenante. S'il cesse de l'être, soit il va faire de la droite et il tombera à droite, soit il va faire de la gauche et il tombera à gauche.
Et là, qu'est-ce que vous voyez sur les prochains mois?
J'en sais rien, là. J'en sais rien. Ça dépend entièrement, à mon avis, de la capacité du gouvernement à reprendre une action réformatrice extrêmement soutenue.
On est en ligne, ouvrons le débat aux auditeurs de France Inter. On est en ligne avec Jeanne. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Jeanne. Vous avez la parole.
Il faut que je vous raconte ma journée du 6 juin.
Allez-y, Jeanne.
Voilà, donc dans la nuit, j'habitais à l'époque au nord de Caen, dans le Calvados. Et toute la nuit, on avait entendu des ronflements, des ronflements, des ronflements. Et avec mon petit frère, nous sommes sortis et on a vu le ciel envahi par des escadrilles d'avions bien au carré. J'ai su qu'ils étaient à 10 000 mètres d'altitude. En tout cas, c'était très beau, très joli. Ce qui a été moins drôle, c'est que quelques heures après, des avions, on appelait ça Razmot, c'est du Razmot, piquaient et bombardaient. Alors, on avait la chance d'être en dehors de la ville, donc on n'a pas pâti des bombardements. Mm-hmm. Mais j'avais aucune notion de vivre une journée historique, que ça pouvait être l'amorce de la fin de la guerre. J'ai le souvenir d'Allemands qui partaient avec des mines défaites, des Anglais qui arrivaient. J'ai le souvenir de casques plats avec un tissu en tissu grillagé, là, mmh. avec des ramures. Alors mmh. on m'a dit, bah oui, c'est une tenue de camouflage.
Jeanne, dites-moi, Jeanne, voilà, permettez-moi, Jeanne.
Il n'y avait plus d'Allemands et il y avait des Anglais.
Jeanne, permettez-moi de vous interrompre. Vous aviez quel âge à l'époque, vous et votre frère?
12,
oui.
Et votre frère?
8
ans. Et vous disiez, je n'ai pas eu l'impression de vivre un jour historique, mais...
Ah non,
mais
pas du tout.
Pourquoi? C'est parce que vous étiez avec votre petit frangin et que vous voyiez passer les avions?
Parce que... habitué, c'était la guerre, nous vivions en guerre depuis 39. Non, je n'avais pas... C'est peut-être une inconscience d'enfant ou une inconscience tout court. Je n'avais pas l'impression qu'on vivait quelque chose d'historique. Mmh. C'était une espèce de distraction. Il y avait une chose qui me ravissait, c'est que je n'allais pas à l'école ce jour-là.
Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin et de nous avoir fait partager ces souvenirs d'enfance. François Sureau, comment recevez-vous ce récit?
Je le ressens de manière extrêmement émue. En même temps, j'ai une inquiétude qui est propre à celle des gens de ma génération. Je suis né 12 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et j'ai très souvent l'impression que nous n'avons pas été à la hauteur de ce que les gens qui ont débarqué le 6 juin 1944 ont fait. C'est-à-dire quand je vois que, d'une certaine manière, affrontés à des épreuves bien moins considérables que les leurs, nous pouvons nous asseoir sur les libertés publiques, l'ordre constitutionnel, je suis très, 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 très frappé et au fond... je ne m'en exempte pas non plus, hein. Je veux dire, c'est pas simplement le fait du gouvernement, mais comme disait Montaigne, la corruption du siècle se fait par la corruption de chacun d'entre nous, et je trouve que, globalement, s'il faut se souvenir de quelque chose, le 6 juin, c'est de ça. Mmh.
On retourne au standard où Gilda nous attend. Bonjour et bienvenue.
Allô?
Oui, on vous écoute.
Bonjour, je suis un ancien condisciple de François Sureau, Alena. La promotion droit de l'homme qui aurait pu s'appeler Club Méditerranée, d'ailleurs, ça n'est pas passé longtemps. Je vais demander à François Sureau, qui n'a pas perdu ses capacités d'analyse, si pour penser aujourd'hui le monde moderne, pour ses enfants, pour sa fille, je crois, il se sert de ses talents de romancier, de juriste, ou bien tout simplement de citoyen.
Merci Gilda pour cette question à votre ancien compagnon de l'ENA. François Sureau vous répond.
Gilda, c'est toi?
Gilda Lecoz, j'étais au PCF.
Mais je me souviens très très bien, tu étais mon seul camarade communiste et un jour nous avons quitté une réunion où on faisait les cons sur un truc qui s'appelait texte et documents administratifs pour aller voir le pape, tu te souviens?
C'était... Tout à fait, mais tu étais un des seuls intellectuels de l'ENA, c'est pour ça qu'on s'était rassemblés, qu'on passait beaucoup de temps ensemble.
Bah écoute, ça s'appelle
Copain d'avant,
oui, maintenant. Oui, c'est Copain d'avant, cette émission.
Citoyens de demain, surtout, je pense.
Oui, Copain d'avant et Citoyen de demain, dit Gilda. François Sureau, alors sur la vraie profonde question que vous pose Gilda.
Ce dont j'essaye de parler en particulier à mes enfants, je ne fais pas d'analyse parce que j'en ai tant vu, j'ai tant vu d'analyses qui se trouvaient démenties par les faits, mais j'essaye de faire enfin en tout cas de parler avec eux, ou comme je parle avec mes amis d'ailleurs, de ce dont je parlais au début, cette espèce de composition de lieu, c'est-à-dire de se remettre plus en effet en romancier qu'en essayiste, de se remettre à l'intérieur du mouvement, de l'être, de ceux de nos aînés qui ont pris des décisions réellement engageantes, et d'essayer de puiser dans cet exercice de manière un peu, j'ose pas dire mystique, une sorte d'encouragement. Il y a un vers de Malherbe que j'aime énormément, c'est dans le sonnet pour la mort d'Anne Puget, où il parle au père de la morte et lui dit « Tu envoies toujours la cendre, que j'en aime encore le feu ». Et au fond, ce « que j'en aime encore le feu » est pour moi ce dont il faut se souvenir le 6 juin 44.
François Sureau, Jocelyn vous pose la question suivante sur l'application de France Inter. Comment l'histoire reliera-t-elle notre inhumanité quant à l'accueil des migrants arrivant ou essayant d'arriver au péril de leur vie en Europe ?
C'est une question très, très compliquée. D'abord, notre inhumanité n'est pas totale. Je voudrais quand même ici dire qu'il faut se garder de tout excès. La France accueille des réfugiés, dépense beaucoup d'argent public pour le faire. Il y a, y compris à l'Office français de protection des réfugiés apatrides, parmi les juges de la Cour nationale du droit d'asile, malgré tout, un sentiment de l'importance de leur office qui n'est pas ridicule. Et quand on voit la masse de dévouement bénévole des Français eux-mêmes à l'intérieur des associations pour l'accueil des réfugiés, on ne peut pas parler de notre inhumanité. Je crois qu'il faut se garder de ces mots-là. En revanche, ce qu'on peut mettre en cause certainement, c'est l'incapacité des gouvernements successifs à pouvoir imaginer une politique pratique qui à la fois accueille, favorise l'intégration et corresponde aux inquiétudes de la société. Et là encore, j'observe que toutes ces dernières années, mais ces 20 dernières années, les grands mots ont toujours été préférés aux actions utiles.
Dernière question, vous étiez à ce micro au mois de décembre dernier, vous nous disiez que le mouvement des Gilets jaunes était, je vous cite, « plus qu'une émeute et moins qu'une révolution ». Aujourd'hui, vous diriez quoi ? Et qu'est-ce que diront les historiens demain de ce mouvement, à vos yeux ?
Je ne sais pas ce qu'ils en diront, parce que c'est vraiment un mouvement multiforme. Moi, ce qui me frappe maintenant, à distance de temps, c'est que tout semble apaisé, mais que rien n'est réglé. Ce que nous voyons disparaître sous nos yeux, malgré tout, ça n'est pas la structuration de la vie politique en gauche, droite, qui continue d'exister, mais ce qui disparaît sous nos yeux, c'est quelque chose d'assez fondamental et que Pascal a très bien décrit, qui est l'assentiment public aux institutions, l'assentiment instinctif aux institutions. Cet assentiment instinctif est celui sous lequel nous avons vécu ce dernier siècle. Le sentiment que j'ai, c'est que ce sentiment instinctif est en train de disparaître et que donc nous pouvons aller vers des situations civiles qui soient aussi ou plus dangereuses encore, tant que nous n'aurons pas trouvé le moyen de restaurer la confiance publique dans les institutions au sens large.
Vous êtes inquiet pour la démocratie ?
Je suis inquiet pour la démocratie parce que pour moi, la seule voie possible de la démocratie, c'est une démocratie représentative, cette démocratie de la délégation, cette démocratie de l'éducation à la raison, qui est une démocratie qui tente à s'effacer sous des pressions multiples et sous l'action de l'incapacité d'une large part des gouvernants.
François Sureau, merci d'avoir été au micro de France Inter ce matin depuis 8h20.